Épithalame. Chapitre 1. Le train de Positano s'arrêta à mi-chemin de Beauvois et ses passagers humains et biotes descendirent sur la berge du lac Shakespeare. De nombreux voyageurs s'étaient munis de paniers à provisions, de couvertures et de sièges pliants. Des enfants en bas âge coururent aussitôt vers les pelouses bien entretenues qui cernaient le plan d'eau. Pour ceux qui ne souhaitaient pas pique-niquer sur l'herbe, des gradins en bois avaient été érigés en face de la jetée sur laquelle on pouvait voir une estrade, un microphone et quelques chaises. C'était de ce podium que le gouverneur Watanabe adresserait son discours à la population après les feux d'artifice. À une quarantaine de mètres sur la gauche, les Wakefield et les Watanabe avaient installé une longue table. Des assiettes d'amuse-gueule étaient posées sur la nappe et sous le plateau, des glacières gardaient les boissons au frais. Membres de la famille et amis mangeaient, riaient ou conversaient. Deux Lincoln se chargeaient de proposer aux convives éloignés des rafraîchissements et des toasts. C'était un après-midi très chaud, trop chaud, le troisième jour de canicule. Mais sitôt que la clarté du soleil artificiel commença à décroître, la foule oublia la forte température. Un train arriva à la tombée de la nuit. Il venait de la gare centrale, avec à son bord des colons d'Aconé et de San Miguel. Les retardataires étaient peu nombreux. La plupart des gens avaient profité de l'occasion pour pique-niquer sur l'herbe, mais Éponine avait décidé d'assister à la commémoration à la toute dernière minute. L'importance de la foule la sidéra sitôt qu'elle descendit du train.
« Tous les habitants du Nouvel-Éden sont là »,
pensa-t-elle. Elle regretta un instant de s'être déplacée. Ces gens étaient accompagnés de parents ou d'amis, alors qu'elle était seule. Mais Ali Wakefield remarqua immédiatement son brassard rouge.
« C'est mon professeur, maman »,
dit-elle en courant vers Nicole.
« Je peux inviter Éponine à se joindre à nous ?»«
Naturellement », lui répondit sa mère.
Une voix couvrit la musique d'un petit orchestre pour annoncer que le spectacle pyrotechnique débuterait dans 10 minutes. Quelques applaudissements épars se firent entendre.
« Ici, Éponine !»
cria Ali en agitant les bras.
« Ici !»
Son professeur l'entendait mais ne la voyait pas. Finalement, elle l'aperçut et se dirigea vers elle. En chemin, elle trébucha sur un enfant en bas âge qui s'éloignait des siens à quatre pattes.
« Kevin !»
hurla la mère.
« Ne reste pas à côté d'elle !»
Un grand blond corpulent s'empressa de venir récupérer le bambin.
« Votre place n'est pas parmi nous »
gronda-t-il.
« Retourne chez toi, 41 !»
beugla une femme qui avait assisté à l'incident. Un enfant obèse d'une dizaine d'années montra du doigt Éponine et murmura un commentaire à sa sœur cadette. Ali vint finalement la rejoindre et lui dit
« Je suis si heureuse de vous voir. Vous voulez manger quelque chose ?»
Éponine hocha la tête.
« J'ai honte pour ces gens !»
ajouta la jeune fille d'une voix assez forte pour que tous puissent l'entendre.
« Leur ignorance fait peine à voir. »
Elle la guida vers la grande table.
« Hé, tout le monde, je vous présente Éponine, ma prof et mon amie. »
Éponine avait souvent rencontré Nicole et les deux femmes échangèrent quelques propos pendant qu'Anne Lincoln apportait des canapés et des boissons. Nai Watanabe arriva avec Kepler et Galilée, ses jumeaux âgés de 2 ans. Des colons de Positano furent visiblement choqués de voir Éponine prendre Kepler dans ses bras.
« Jolie !»
commenta le bambin.
C'est certainement très pénible,
dit en français Nicole, tout en désignant les badauds de la tête.
Effectivement, pénible, pensa-t-elle. Je dirais même insupportable, comme si le fait d'avoir une maladie mortelle incurable ne suffisait pas. Voilà qu'on nous oblige à porter un brassard pour que ces tarés puissent nous fuir comme des pestiférés.
Max Puckett, qui jouait aux échecs avec Mishkin, leva les yeux et la vit.
« Salut !»
fit-il.
Vous devez être ce prof dont j'ai tant entendu parler.
C'est Max, dit Ali en entraînant Éponine dans sa direction. Et le monsieur plus âgé qui ne prête pas attention à nous est le juge Piotr Mishkin. Ai-je prononcé correctement votre nom, monsieur le juge ?
À la perfection, mademoiselle, répondit Mishkin sans lever les yeux de l'échiquier.
Bon sang, Max, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as déplacé ce cavalier. Je me demande une fois de plus si tu es un génie ou si tu fais n'importe quoi.
Il leva finalement la tête, vit le brassard d'Éponine et se leva aussitôt.
Veuillez me pardonner. Votre situation est bien assez pénible sans qu'un vieux débris dans mon genre vous fasse de surcroît subir un affront.
Peu avant le début du feu d'artifice, un gros yacht approcha de l'aire de pique-nique. On voyait sur son pont des guirlandes lumineuses multicolores et des chapelets de jolies filles au-dessus du nom Nakamura peint sur la lisse.
Éponine reconnut Kimberly à côté de Toshio, qui était à la barre.
Les passagers du navire saluaient de la main, la foule massée sur le rivage. Patrick courut vers sa mère.
« Regarde, Cathy est sur le bateau !»
Nicole mit ses lunettes et reconnut sa fille parmi les beautés en maillot de bain.
« Il ne manquait plus que ça !»
marmonna-t-elle, alors que l'explosion de la première fusée emplissait la nuit de lumière et de couleurs. Kenji Watanabe débuta son discours.
« Il y a 3 ans aujourd'hui, les éclaireurs de la Pinta posaient le pied dans ce nouveau monde. Nous nous sommes tous demandé depuis, surtout pendant ces 2 longs mois où nous passions 8 heures par jour dans le somnarium, s'il nous serait finalement possible de mener une existence normale dans le Nouvel Éden. Nos craintes étaient sans fondement. Nos hôtes extraterrestres se sont abstenus d'intervenir dans nos affaires, et s'ils nous soumettent à une surveillance ininterrompue, comme l'affirme Nicole Wakefield et les siens, nous n'en avons jamais été incommodés. Rama se ruverto seti à une vitesse inconcevable, mais cela n'a guère d'influence sur nos activités quotidiennes. Avant ces séjours dans le somnarium, nous étions nombreux à penser que la période d'observation serait brève. Nous nous disions que nous retournerions sur Terre après 2 mois, ou que Rama nous déposerait sur Mars, puis disparaîtrait dans l'espace interstellaire comme ses prédécesseurs. Mais ce vaisseau s'éloigne du Soleil à la moitié de la vitesse de la lumière depuis 2 ans et demi, et nous savons désormais que si nous avons la chance de regagner notre planète, ce ne sera pas avant de nombreuses années. Voilà pourquoi nous devons prendre notre avenir en main. Nous ne pouvons demander aux puissances qui ont créé ce monde miniature de nous protéger contre nos erreurs. Il faut nous comporter dans le Nouvel Éden comme si nos enfants et nous devions y vivre à jamais. Nous portons la responsabilité de faire en sorte que la vie soit agréable en ce lieu, tant pour nous que pour nos descendants. Pour cela, il convient de relever de nombreux défis. Remarquez que je parle de défis et non de problèmes. La solidarité nous permettra de surmonter cette crise si nous tenons compte des conséquences à long terme de nos actes. Mais si nous ne pensons pas à l'avenir et à nos enfants, nous courons à la catastrophe. Je citerai un exemple pour illustrer mes propos. Richard Wakefield nous a expliqué comment fonctionne le centre de contrôle météorologique. Ces algorithmes manipulent des données incluses dans une fourchette préétablie de taux de gaz carbonique et de suie dans l'atmosphère. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour comprendre que les calculs seront faux si nous nous écartons de ces paramètres. Je n'ai pas l'intention de faire un exposé sur un sujet aussi complexe. Étant donné que la plupart des scientifiques pensent que le dérèglement des conditions climatiques constaté au cours des 4 derniers mois est dû à une forte augmentation de la teneur en gaz carbonique et en suie de l'atmosphère, mon gouvernement a présenté des propositions pour les réduire. Malheureusement, toutes ces suggestions ont été rejetées par le Sénat. La suppression progressive des cheminées, qui n'ont ici qu'un rôle de pur agrément, a été qualifié d'atteinte aux libertés individuelles. Le projet de réimplantation d'une partie du réseau de CG pour compenser le déboisement de certains secteurs de la forêt de Sherwood
et de la campagne a connu le même sort. Pourquoi ? L'opposition estime que l'énergie requise pour alimenter ces convertisseurs imposerait à la population des privations intolérables. Mesdames et messieurs, il est ridicule de nous voiler la face et d'espérer que notre écosystème retrouvera par miracle son équilibre. Reporter à plus tard la mise en application de telles mesures nous contraindra à en imposer un jour de bien plus draconiennes. Croire que nous finirons par découvrir comment modifier les logiciels des extraterrestres pour que le système puisse fonctionner correctement malgré la pollution de l'atmosphère est irréaliste. Nous commettons une fois de plus le péché d'orgueil.
Nicole et Nai observaient les réactions de la foule. Plusieurs membres de l'entourage de Kenji lui avaient déconseillé d'aborder ces thèmes impopulaires, mais il ne s'était pas laissé influencer.
Il les a perdus,
murmura Nai. La nervosité croissait dans les gradins. Le yacht de Nakamura, resté amarré près du rivage pendant le feu d'artifice, avait levé l'ancre dès le début du discours du gouverneur. Kenji passa de l'environnement au rétrovirus RV-41. Comme ce sujet suscitait de vives réactions, il bénéficiait à nouveau de l'attention générale. Il parla des progrès réalisés par l'équipe du docteur Robert Turner et précisa que seule une intensification des recherches permettrait de lui trouver un remède. Il critiqua ensuite l'hystérie collective à laquelle on devait l'adoption de la loi contraignant tous les séropositifs à porter constamment un brassard rouge. Des pique-niqueurs orientaux installés sur les gradins le huèrent.
Alors que ces malheureux sont déjà confrontés à une angoisse insoutenable,
ajoutait-il.
C'est tous des putes et des pédés,
cria un homme. Son entourage rit et applaudit.
Le docteur Turner a pourtant affirmé que cette maladie ne peut être transmise que par le sang et le sperme.
La foule devenait houleuse. Nicole espérait que Kenji l'avait remarqué et s'abstiendrait de contester la décision d'explorer le reste de Rama. Le tumulte était tel que le gouverneur s'interrompit, se pencha vers le microphone et siffla. Surpris et assourdi, tous se turent.
J'ai presque terminé, et ce que j'ai encore à vous dire ne devrait choquer la sensibilité de personne. Nous avons eu des fils jumeaux, ma femme et moi, et nous nous estimons comblés. À l'occasion de cette commémoration de la colonisation, je vous demande de voyager dans le temps en pensée et d'imaginer que nous sommes réunis pour célébrer cet anniversaire dans un siècle ou dans un millénaire. Vous êtes en compagnie de vos lointains descendants et pouvez-vous leur affirmer que vous avez fait tout votre possible pour leur léguer un monde où il fait bon vivre ?
Patrick était surexcité. À la fin du pique-nique, Max l'avait invité à passer la nuit et le jour suivant dans sa ferme.
« L'université ne rouvrira ses portes que mercredi, »
dit-il à sa mère.
« Je peux y aller, s'il te plaît. »
Préoccupé par la réaction des colons au discours de Kenji, Nicole n'avait pas assimilé la teneur de ses propos. Elle réclama des explications, puis se tourna vers Max.
« Vous prendrez bien soin de lui. »
L'Américain sourit et hocha la tête. Max et Patrick se dirigèrent peu après vers la gare. Une demi-heure plus tard, ils attendaient le train qui desservait le secteur agricole. Sur le quai opposé, des camarades d'études de Patrick embarquaient à bord du convoi pour Hakone.
« Viens avec nous !»
lui cria l'un d'eux.
« Boisson gratuite pour tout le monde !»«
Connais-tu Vegas ?»
demanda Max.
« Non, monsieur. Ma mère et mon oncle.
« Y aller te tenterait ?»
L'hésitation de Patrick était explicite. Quelques secondes plus tard, il rejoignait les joyeux Drille dans le train d'Hakone.
« Je n'apprécie pas tellement cet endroit, »
commenta Max pendant le trajet.
« Tout est bidon, artificiel. Mais il faut l'avoir vu, et c'est le lieu idéal pour s'amuser quand on est seul. »
2 ans et demi plus tôt, Dès la fin de la phase d'accélération, Toshio Nakamura avait compris qu'il séjournerait longtemps dans le Nouvel Éden. Avant même la première réunion de l'Assemblée constituante et la nomination de Nicole Desjardins-Wakefield au poste de gouverneur provisoire, le Japonais décida de faire le nécessaire pour devenir l'homme le plus riche et le plus puissant de la colonie. Grâce au soutien des ex-détenus placés sous sa coupe pendant la traversée à bord de la Santa Maria, il établit des contacts et entreprit de se bâtir un empire, sitôt que de l'argent fut mis en circulation et que des banques furent fondées. Convaincu que le plaisir était la denrée qui se vendait le mieux, il ouvrit une petite salle de jeu qui remporta un succès immédiat. Il acheta alors des terres agricoles à l'est d'Akone et y fit construire un hôtel, un casino, un club plus intime avec des hôtesses formées à la japonaise et une boîte de nuit où des filles exerçaient le plus vieux métier du monde. Tout ce qu'il entreprenait était une réussite. En jonglant adroitement avec ses investissements, il se déclara intéressé par un cinquième de la forêt de Sherwood peu après l'élection de Kenji Watanabe au poste de gouverneur. Le Sénat fut ravi d'accepter un apport d'argent frais qui lui permettrait de reporter à plus tard le vote d'un impôt impopulaire destiné à financer les recherches sur le RV-41. Une partie des bois fut rasée et les arbres remplacés par le palais de Nakamura. Un hôtel-casino tape à l'œil, un ensemble de salles de spectacle, des restaurants et plusieurs nightclubs. Pour s'assurer le monopole des jeux, le roi Jap fit voter une loi les limitant au secteur d'Akone et ses sbires se chargèrent ensuite de dissuader tout concurrent de s'implanter dans son fief. Lorsque sa puissance le rendit invulnérable, Nakamura autorisa ses associés à étendre leurs activités à la prostitution et à la drogue, qu'aucune loi n'interdisait dans le Nouvel Éden. À présent que le mandat de Watanabe tirait à sa fin, le roi Jap avait décidé de contrôler également le gouvernement, dont les orientations politiques risquaient de lui nuire, et comme il ne tenait pas à occuper un tel poste, il lui fallait un homme de paille. Il le trouva en la personne de Ian Macmillan, l'ex-commandant de la Pinta battu par Kenji lors des élections précédentes. Nakamura s'engageait à lui offrir le titre de gouverneur en échange de sa loyauté. Vegas était une curiosité. Dans ce monde clos à l'architecture dépouillée et fonctionnelle, la ville du jeu était un mélange de styles disparates, le royaume du clinquant. Patrick O'Toole en fut fortement impressionné.
Waouh !
S'exclama-t-il, en découvrant l'énorme enseigne aux néons clignotantes de l'entrée de Vegas.
Je ne voudrais pas doucher ton enthousiasme, mon garçon,
lui dit Max en allumant une cigarette,
mais ce machin consomme autant d'énergie qu'un kilomètre carré de CG.
Vous me faites penser à ma mère et à mon oncle.
Ils entrèrent dans le casino et allèrent vers les deux tables de dés. Max essaya d'expliquer les règles de ces jeux de hasard, mais le jeune homme s'intéressait bien plus aux serveuses, légèrement vêtues.
Tu as sauté le pas, mon garçon ?
Demanda Max.
Excusez-moi ?
As-tu déjà couché avec une fille ?
Non, monsieur.
Une voix intérieure murmura à Max que ce n'était pas à lui de faire découvrir les plaisirs de la chair, à Patrick, et lui rappela qu'ils étaient dans le Nouvel Éden et non dans l'Arkansas. Il y avait dans cette salle une foule importante et tous semblaient s'amuser. Des filles distribuaient des boissons gratuites et Max prit une margarita qu'il tendit à Patrick.
« Je vois pas de biote ?»
commenta ce dernier.
« Il n'y en a pas un seul ici, pas même aux tables où il serait pourtant plus efficace que les croupiers humains. Le roi Jap craint que leur présence n'incite guère les clients à jouer et il limite leur emploi à ses restaurants. »«
Mais c'est Max Puckett, ma parole !»
Ils se tournèrent vers une jolie femme en robe rose qui approchait d'eux.
« Ça fait des mois que je t'ai pas vu, »
ajouta-t-elle.
« Salut, Samantha !»
dit Max.
après quelques secondes de mutisme.
« Et qui est le beau jeune homme qui t'accompagne ?»
demanda la nouvelle venue en battant des cils.
« Patrick O'Toole, c'est le... »«
Seigneur, c'est la première fois que je rencontre un des fondateurs de notre colonie. »
Elle regarda Patrick de haut en bas.
« Dites-moi, est-il exact que vous avez fait un somme de plusieurs années ?»
Patrick hocha la tête intimidé.
« Mon ami Goldie dit que c'est du bidon, que vous êtes des agents du CDG. Elle affirme que nous sommes toujours en orbite autour de Mars et que ces séjours épouvantables dans ces caissons faisaient partie d'une mise en scène. Je vous assure que nous avons effectivement dormi plus d'une décennie. J'avais que 6 ans quand mes parents ont refermé mon sarcophage et j'étais tel que vous pouvez me voir à mon réveil. C'est fascinant, même si je ne sais quoi en penser. Alors Max, qu'est-ce que t'attends pour me présenter ?
Excuse-moi, Patrick, voici Mademoiselle Samantha Porter. Elle vient du grand état du Mississippi et travaille au Xanadu.
Je suis une prostituée, monsieur O'Toole. Une des meilleures. Avez-vous déjà utilisé nos services ?
Patrick rougit.
Non, madame.
Elle souleva son menton du bout de l'index.
Il est trop trognon. Amène-le-moi un de ces jours. Si c'est la première fois, mes prestations seront gratuites.
Elle déposa un baiser sur les lèvres de Patrick, puis les laissa. Max ne trouvait rien à dire. Il prit le jeune homme par l'épaule et alla vers le fond de la salle et les tables, où les mises étaient plus importantes.
« Et c'est parti !»
cria une fille qui leur tournait le dos. Patrick regarda Max, surpris.
« Mais...
c'est Cathy ?»
fit-il en pressant le pas. Sa sœur se concentrait sur le jeu. Elle tira sur sa cigarette, but d'un trait la boisson que lui tendait un homme basané, puis leva les dés à bout de bras.
« Tous les numéros !»
dit-elle en présentant des jetons au croupier.
« 26 marques, plus 5 sur le 8. »
Elle lança les dés d'un geste nerveux.
« 44 !»
hurlèrent les spectateurs. Cathy fit des bonds de joie, serra son ami, but un autre verre et inhala la fumée de sa cigarette.
« Cathy !»
dit Patrick à l'instant où elle allait rejouer. Elle interrompit son geste et se tourna.
« Mais, c'est mon petit frère !»
Elle alla vers lui en titubant, pendant que les croupiers et les autres joueurs lui criaient de reprendre la partie.
« Tu es ivre, Cathy !»
murmura Patrick en l'étreignant.
« Erreur, frérot !»
répondit-elle en reculant vers la table.
« Je plane. J'ai embarqué pour les étoiles. »
Elle se détourna et leva les dés.
« C'est reparti !»
cria-t-elle.